Bonjour Hervé Pénisson. La crise que nous vivons met nombre d'entreprises au pied du mur, réussir leur transformation rapidement ou manquer le rebond économique lorsqu'il se présentera. Vous êtes fondateur de RVP Conseil et vous nous donnez votre avis sur le sujet.
D'abord, bonjour. Vous avez raison, hein, le défi est bien là, dans la rapidité à réussir sa transformation. Effectivement, nombre d'entreprises ont lancé un programme de transformation et n'ont pas attendu la crise pour le faire. Mais comme il touche de près l'humain, il demande du temps. Or, le temps, c'est une des richesses que la crise Covid nous enlève. Et il est normal que l'inquiétude grandisse d'autant. D'ailleurs, les enquêtes nous le montrent bien, je vous en cite deux. La première, c'est une enquête de l'Association nationale des DRH et qui parle du désarroi au sein de la profession RH. Alors, il a été réalisé juste à la sortie du déconfinement début d'été. Et il montre que 93% des DRH françaises sont conscientes que la crise Covid va modifier sensiblement et durablement les pratiques managériales. Et pourtant, moins d'un quart d'entre elles ont commencé à agir dessus. La deuxième, c'est une étude qui a été publiée dans LinkedIn et qui s'appelle le syndrome de l'imposteur, dans laquelle on montre qu'en Europe, plus de la moitié, des cadres dirigeants d'entreprise se sont posé la question à un moment donné de savoir s'ils étaient encore compétents par rapport aux enjeux que présentait la crise. Et le deuxième chiffre qui est dans cette même étude, c'est que 70% des managers pensent que les conséquences sur les pratiques managériales de la crise Covid sera leur plus grand défi managérial. Donc on sent bien, à travers ces deux chiffres, il y en a d'autres bien sûr, que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur notre site, que la crise est un facteur qui accélère l'inquiétude au sein des entreprises.
Mais ce besoin de rapidité, c'est contradictoire avec celui de disposer de temps pour transformer les cultures d'entreprise, les états d'esprit, les pratiques. Comment est-ce qu'on peut surmonter cet obstacle?
Eh bien, il faut privilégier, focaliser son attention et son énergie sur les facteurs clés. Nous pensons que les deux facteurs clés qui décident dans un temps de crise comme celui-ci de la pérennité des entreprises sont la création de valeur et le management. Alors la valeur, c'est ce qui fait que vos produits de votre entreprise ou les services que vous proposez vont trouver preneur, des clients qui vont dépenser leur argent ou des usagers qui vont bénéficier de vos services. Le management, c'est ce qui permet à l'ensemble de l'entreprise de fonctionner et de produire avec la qualité nécessaire et la prévente nécessaire, les services et les produits qu'elle propose justement à ses clients. Alors, dans un temps de crise et de transformation, la capacité à transformer l'entreprise passe par la capacité à innover, à faire des choses différentes. Je vous donne un exemple de ce qui se fait en management, qui a pu se faire, que vous connaissez certainement. C'est il y a maintenant de nombreuses années, presque 20 ans, Google qui a introduit, la première grande entreprise qui a introduit le vendredi ou un jour de la semaine où les collaborateurs de Google pouvaient exercer, travailler dans un autre domaine que celui qui était le leur propre. Et puis, beaucoup plus récemment, je vous conseille de regarder ce que fait la société qui s'appelle Ultranauts et qui est une société qui travaille exclusivement en télétravail et qui emploie 75% de personnes qui sont dans le spectre de l'autisme. Dans une période où le télétravail massif a bouleversé les pratiques managériales, il est intéressant de voir comment cette entreprise arrive à gérer en télétravail des personnes qui présentent des difficultés à communiquer socialement. Voilà. Et nous, chez RVP Conseil, c'est le domaine dans lequel on intervient, à savoir le management et la création de valeur. Nous cherchons à faire en sorte que chaque manager puisse se réorienter vers la création de valeur.
Bon, sur ce sujet, il existe déjà de nombreuses compagnies qui offrent du conseil en management, de la formation, du coaching. Et c'est encore insuffisant?
Il est vrai que les entreprises, et notamment grâce à leur RH, investissent beaucoup sur ces trois accompagnements dont vous venez de parler, conseil, formation et coaching. Par exemple, en France, on dépense chaque année plus de 3 milliards d'euros rien qu'en conseil en management. Et le coaching représente aujourd'hui environ 30% du budget formation d'une entreprise. Donc c'est considérable et ça montre bien la prise de conscience des entreprises dans la nécessité d'accompagner leur management et de faciliter les transformations. Je me garderais bien de porter un jugement, mais soyons honnêtes. Est-ce que toutes ces aides donnent-elles pleinement satisfaction? Les transformations suscitent-elles autant d'adhésion que l'entreprise ou les dirigeants le souhaiteraient? Au-delà, bien sûr, des grands raouts de communication qui, effectivement, permettent aux gens de sortir avec un grand sourire, mais qu'en est-il derrière concrètement? Et puis, les projets, les portefeuilles projets, posez-vous la question dans votre entreprise, est-ce que vous arrivez dans votre entreprise à dépasser cette fameuse barrière de 30% de réussite de vos projets, ceux qui sont dans les portefeuilles projets, réussir en termes de proposition de valeur, de durée, de budget? En toute honnêteté, chez nous, notre réponse, c'est non. Et c'est notre raison d'être, justement, d'apporter un complément, le complément, l'ingrédient manquant qui va faire que l'ensemble de ces dispositifs vont donner beaucoup plus de rendement.
Oh, un ingrédient manquant. Alors, c'est quoi cet ingrédient?
Eh bien, nous proposons ce que l'on appelle le mentorat managérial orienté création de valeur. Alors, ça ne vous surprendra pas après ce que nous avons déjà évoqué, le choix de nous focaliser sur le tissu managérial et puis sur la création de valeur. Le tissu managérial, parce que pour nous, il s'imposait très naturellement, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure, la courroie de transmission de l'entreprise, le leadership, qui fait que les collaborateurs vont donner le maximum de qualité dans leur production, dans l'exécution de leurs tâches et donc dans la création de valeur de l'entreprise. Nous croyons vraiment, nous sommes vraiment très très convaincus qu'il y a du plaisir à créer de la valeur, à voir, faire grandir, à partager les découvertes que nous faisons au sein d'une entreprise. D'ailleurs, ça dépasse largement le cas de l'entreprise. Ça peut être aussi dans notre vie personnelle, quand on contribue à donner de la joie, à créer de la valeur sociale, alors que dans l'entreprise, on va parler plutôt de valeur économique ou de valeur sociétale. Mais c'est ce qui donne un sens à notre vie chez RVP Conseil, c'est ce qui fait que nous avons du plaisir à travailler. Alors, le mentorat, lui, il complète effectivement harmonieusement conseil et coaching. Comme le coaching, il va s'adresser à des individus et va capitaliser sur ces individus et en les amenant à accomplir, à eux-mêmes à s'accomplir par leurs actions, il va les faire grandir. Ça en fait des exemples, si ce n'est des leaders, dans une nouvelle génération d'entreprises. En revanche, contrairement au coaching, le mentor est un expert en management, en transformation et en création de valeur. Chez RVP Conseil, on est très clair sur notre domaine d'expertise. Je ne suis par exemple pas un expert en construction automobile, mais je suis un expert et tous ceux qui m'accompagnent sont des experts dans le management, dans la transformation et la création de valeur. Et donc, cette expertise va nous permettre d'accélérer l'obtention de résultats en préconisant des actions concrètes aux mentorés.
Mais est-ce que ce n'est pas ce que le conseil en management est déjà censé faire?
Le conseil en management est effectivement très utile et possède également cette expertise du management. Mais il travaille sur un plan différent, beaucoup moins individuel, travaille sur le plan en général de la méthode et du processus. Je vous donne un exemple. Une entreprise décide de se transformer, de se digitaliser. Elle a peu d'expérience en la matière et donc elle va faire appel à un conseil. Conseil en management, peut-être même management stratégique. On va établir une stratégie et puis feuille de route opérationnelle. Ça va se passer comment? Des experts vont venir dans l'entreprise, vont collecter tout un tas d'informations, ça va prendre un certain temps. Et puis, des interviews vont avoir lieu avec les personnes qui sont identifiées comme étant déterminantes. Et puis, il va venir un premier résultat qui va être une proposition de plan de transformation. Et dans cette proposition, on va retrouver, eh bien voici les objectifs stratégiques que nous vous proposons par rapport à ce que vous nous avez dit. Par exemple, vous allez créer un site de e-commerce qui sera opérationnel dans un an. Vous allez former tout votre personnel vendeur à telle technique de télévente, etc. Et puis, en termes d'organisation, vous allez créer une direction de la transformation avec une personne qui va en prendre la tête. Donc, voici le profil. Et donc, vous devrez l'avoir embauché dans 6 mois. Et puis ensuite, vous mettrez des comités mensuels, puis des comités stratégiques trimestriels, etc. Voilà ce que va faire un conseil en management. Ce que le conseil en management peut ne pas percevoir, ou s'il le perçoit, aura peu de leviers pour l'utiliser, ce sont les facteurs sociodynamiques. Par exemple, tel manager est déterminé à s'opposer à tel autre, quoi qu'il arrive, parce que leur histoire fait qu'ils ont un antagonisme latent. Une telle autre personne est déchirée parce que, reprenons notre exemple, le programme de transformation, elle trouve ça fantastique, elle aurait adoré, elle aurait rêvé en être à la tête. Malheureusement, une autre personne a été nommée à sa place. Donc elle se trouve déchirée entre l'envie de faire réussir ce plan de transformation, mais l'envie de faire échouer la personne qui a pris sa place. Tel autre, qui est peut-être pressenti pour diriger ce plan de transformation, en fait se révélera faible par rapport à la pression que pourrait générer un COMEX avec sa résistance au changement, certains potentats qui souhaiteraient ne pas perdre leur pouvoir à travers cette transformation. Tout cela, c'est le domaine que le mentor va pouvoir identifier, sur lequel il va pouvoir travailler efficacement.
Bon, permettez-moi d'insister. Pourquoi un mentor et personne d'autre?
Eh bien, d'abord parce que la relation avec le mentor est individualisée. Et c'est bien là la contradiction fondamentale que portent tous les plans de transformation dans les entreprises. C'est cette contradiction qui consiste à vouloir faire de l'individualisation de masse. C'est par nature contradictoire. Le mentorat permet de lever cette contradiction parce qu'il a un caractère individuel, justement, qui va permettre, dans un contexte de confidentialité approprié, de poser des questions qui vont lever les freins sociodynamiques ou les identifier, et qui va ensuite donc permettre de préconiser des actions qui vont lever ces contraintes sociodynamiques, et donc qui vont permettre à l'ensemble du dispositif qui a été mis par ailleurs, dont on vient de parler, conseil en management, coaching, etc., de donner son plein rendement. Donc, il est important que le mentor puisse avoir sa place dans ce dispositif général, car au bout de quelques jours seulement, il aura la capacité à lever ces éléments sociodynamiques pour ensuite pouvoir les préconiser des actions afférentes.
Bon, puisque nous entrons dans la mécanique du mentorat, pouvez-vous nous dire comment cela fonctionne concrètement?
Alors, concrètement, ça fonctionne en 3 temps. Le premier temps est très court, c'est un entretien. Comme le coaching, le mentor et le mentoré vont se présenter et vont décider s'ils sont mutuellement compatibles. Une relation individuelle de cette nature, de cette importance, s'il n'y a pas un sentiment de compatibilité, elle ne peut pas fonctionner. Et si l'une des deux parties sent que ça ne va pas le faire, il faudra changer le mentor et trouver quelqu'un d'autre qui sera compatible avec le mentoré. Ça, c'est vraiment le premier temps très court. Le second temps, ça va être un travail donc entre le mentor et le mentoré qui va être très court, 1 mois maximum, en général moins, pendant lequel on va lever les points durs du mentoré. Et les points durs, ce sont tous ces points qui lui consomment ou qui lui consomment du temps inutile et du stress ou de l'énergie inutile. Pourquoi ? Parce que dans une entreprise, on a souvent le travers de nommer des priorités, et c'est très bien de nommer des priorités, mais des priorités numéro 1 qui viennent s'ajouter à des priorités numéro 1, et en fait on n'enlève jamais des priorités numéro 1. Ce qui fait qu'en fait les personnes à qui on demande de consacrer du temps parce que c'est important, parce que c'est stratégique pour l'entreprise, en fait font de leur mieux pour répartir leur disponibilité intellectuelle et temporelle à travers toutes ces priorités. Ce que va faire le mentor dans cette phase de travail, c'est qu'il va identifier les tâches qui prennent un temps inutile et de la disponibilité intellectuelle gâchée, pour libérer de la disponibilité sur ces deux facteurs-là. C'est ce c'est ce qu'on a, moi j'ai appris au fil du temps, c'est que une personne qui n'a pas la disponibilité de son temps et de son intelligence ne peut pas travailler efficacement sur des questions de transformation, de changement de culture, de changement d'état d'esprit, d'adoption de nouvelles pratiques dans la durée et avec l'efficacité nécessaire. Ensuite, lorsque ce premier travail aura été fait, donc encore une fois, il est très court, eh bien, vous comprenez qu'il y a une relation de confiance très forte qui s'est établie à ce moment-là entre le mentor et le mentoré, parce que les premières préconisations du mentor ont été couronnées de succès. À ce moment-là, on a cette disponibilité, on a cette écoute, et on peut maintenant travailler sur la construction, sur la réorientation vers la création de valeur des pratiques managériales. On va le faire très simplement, on va reprendre tous les objectifs qui ont été donnés au mentoré dans son, dans sa feuille de route de management. Et on va étudier par rapport au contexte de l'entreprise comment ces objectifs contribuent à créer de la valeur ou pas dans l'entreprise. Et ensuite, on mettra en place des actions que le mentoré accomplira, parce qu'encore une fois, c'est lui qui fait, c'est lui qui grandit, et c'est pour ça que c'est une capitalisation importante pour l'entreprise, va mettre en place les actions qui vont permettre à la fois de réussir les objectifs et aussi de créer encore plus de valeur pour l'entreprise.
Au bout de combien de temps peut-on espérer obtenir des résultats concrets avec cette approche?
Alors, encore une fois, le traitement des points durs doit être court. Nous estimons qu'il doit être réglé en un mois maximum. Et puis ensuite, tout dépend naturellement du chemin co-construit avec le mentoré pour obtenir ces objectifs de nouvelles pratiques managériales orientées création de valeur. Mais dans un cadre comme celui de la crise Covid, par exemple, et puis de façon générale, l'objectif est que des résultats significatifs et mesurables soient obtenus en 6 mois. Dans le cas de la crise Covid, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a un rebond économique à préparer et qu'il se prépare très longtemps à l'avance. Alors vous allez me dire, c'est peut-être ambitieux de lever tous des points durs, tous les points durs en un mois. Ben c'est justement l'expertise et le savoir-faire que nous avons développé.
Bon, je vois que le collaborateur, il gagne en management. Et qu'en est-il de l'entreprise, de ce fameux passage à l'échelle?
Oui, cette fameuse contradiction de vouloir faire de l'individualisation de masse. Eh bien, d'abord, ne perdons jamais de vue que le mentorat, encore une fois, vient en complément des autres actions de transformation. C'est un catalyseur. Il l'accélère et il donne de l'efficacité et de la performance. Alors voilà ce qu'il génère à terme pour l'entreprise. Ben, il contribue à créer une nouvelle génération de leaders qui seront orientés création de valeur, donc de toute façon facteur d'une meilleure performance d'ensemble. Et ce sont des leaders qui sont des exemples, qui vont susciter alors l'admiration, l'envie de le faire. Vous connaissez peut-être l'histoire de Roger Bannister. Roger Bannister était un coureur professionnel, un athlète, qui en 1954 a réussi à faire quelque chose que les scientifiques pensaient et les docteurs pensaient impensable. Il a couru le mile en moins de 4 minutes. On pensait que l'organisme humain ne pouvait pas le faire. Et pendant des années, ce sentiment a créé une sorte de barrière psychologique et personne n'arrivait à descendre sous les 4 minutes. Je crois que le record était aux alentours de 4 minutes 4 secondes. En 1954, Roger Bannister, qui ensuite fut anobli et nommé ministre des Sports d'ailleurs, a réussi à briser cette barrière. Il a couru en 3 minutes 59. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que dans la même année, et même quelques semaines plus tard, quelqu'un a rebattu son record, et dans la même année, le record a été battu 3 fois. Il suffisait que quelqu'un le fasse pour que très rapidement l'ensemble de la communauté concernée y croit et se mette à le faire également. Ben, c'est exactement le même phénomène ici, des leaders qui vont en entraîner d'autres. Et donc vous allez avoir un phénomène de propagation par capillarité qui est un facteur d'accélération. Ensuite, ben vous aurez des managers plus engagés. Quand on est un leader et que d'autres comptent vraiment sur vous, vos équipes par exemple, alors vous vous faites un devoir encore plus grand de tenir vos engagements. C'est un facteur très positif. Vous l'avez compris, on s'adresse à la création de valeur. Donc, quand on transforme les pratiques managériales pour faire de la création de valeur, on n'est pas en opposition frontale et officielle avec la culture historique de l'entreprise. On ne fait pas de contre-culture. Et donc, on limite les effets de résistance et de difficulté à avoir l'adhésion des collaborateurs quand on leur propose trop brutalement une rupture culturelle, comme c'est le cas parfois dans les programmes de digitalisation. Et puis enfin, on pourrait en citer d'autres, mais enfin, le fait qu'il y ait une nouvelle génération de leaders qui émergent, eh bien ça, pour peu qu'on communique dessus ou pour peu que le bouche à oreille se fasse, ça va créer un facteur d'attractivité supplémentaire pour l'entreprise. On va se dire, il se passe quelque chose de particulier dans cette entreprise, j'ai bien envie de m'y intéresser.
Merci pour cet entretien, Hervé Bénisson. Je suppose qu'une visite à votre site rbbconseil.com permet de trouver des informations pour vous contacter.
En effet, mais c'est à moi de vous remercier pour votre écoute. À bientôt.